une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Pour être un petit peu plus clair, les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 016 TTC proposés par le CNDA à la SMJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et cette semaine, je laisse la parole à Robin Lemoine, journaliste indépendant spécialisé en sciences économiques et sociales. Salut Robin.
Salut Emmanuel.
Aujourd'hui, tu vas nous parler de points d'indice, d'attractivité et de... Moi ?
C'est mon moment. Vas-y.
Et oui, aujourd'hui, on va parler de toi et de tes collègues de primaire et de secondaire. Car vous le savez sûrement, mais en ce moment, l'actualité du monde enseignant est très préoccupante. Manque de professeurs titulaires, absence non remplacée, job dating avec des entretiens de 20-30 minutes pour embaucher des enseignants contractuels non formés au métier, etc., etc. Et puis surtout, dans ce monde, il y a comme un malaise. On se sent de moins en moins considéré, de moins en moins bien payé et de plus en plus fatigué. Alors vous allez peut-être me dire « Oh, ça va, les profs, ils bossent 18 heures par semaine. » Ils finissent chaque jour maximum à 18h et ils ont toutes les vacances scolaires, donc plus de 3 mois pour se reposer. Et puis franchement, ils sont quand même bien payés pour réciter un cours.
On n'est pas bien ? À la fraîche ?
Ce discours, je le connais bien. Ma mère et beaucoup de mes potes sont profs. Mais alors pourquoi plus personne ne veut être prof ? Pourquoi la profession manque d'attractivité ? Pour preuve, plus de 4000 postes de titulaires n'ont pas été pourvus en 2022. Ça signifie que des postes sont ouverts au concours de recrutement, mais qu'il n'y a pas assez de monde qui s'y présente. Ou alors qu'une partie importante des candidats n'ont pas le niveau. Le gouvernement et les autres partis politiques se rendent bien compte que ça ne va pas fort. Qu'il y a comme un hic.
C'est louche.
D'ailleurs, pendant la campagne présidentielle de 2022, presque tous les camps souhaitaient augmenter leur salaire. C'est ce qu'a fait en avril dernier notre président, en déclarant des hausses historiques. En 2022, lui voulait augmenter leur salaire de 10%. Et on le verra dans cet épisode, les annonces récentes en sont bien loin. Mais alors, comment sont payés les profs ? Sont-ils bien payés par rapport à nos voisins ? Travaillent-ils seulement 18 heures par semaine ? Et pourquoi ne sont-ils pas au top en ce moment ? Allez, retour en classe. Les profs français sont-ils si mal payés ? Bon, déjà, on va essayer d'expliquer comment fonctionne la rémunération des profs. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Petite précision, il y a plusieurs types de professeurs. Les certifiés, c'est-à-dire qu'ils ont passé et eu le diplôme du CAPES. Ensuite, vous avez les agrégés qui ont réussi le concours de l'AGREG. Et enfin, les contractuels qui n'ont ni l'un ni l'autre. Celui qui va vous expliquer tout ça s'appelle Mehdi Djebari. Il est administrateur de la fonction publique, ancien professeur d'histoire et membre du collectif Nos Services Publics.
Ce qui est déterminant dans la rémunération des professeurs, c'est le nombre de points d'indice auxquels ils ont droit. Alors, je vous explique. Les enseignants ont un grade, par exemple, professeur des écoles, certifié, agrégé. Ce sont des grades. Et ils ont une ancienneté, 1 an, 5 ans, 10 ans. Et selon leur grade et leur ancienneté, ils ont droit à un certain nombre de points d'indice. Par exemple, un professeur certifié débutant, il a 390 points d'indice. Un agrégé débutant, il a 450 points d'indice. Chaque point d'indice a une valeur en euros. Actuellement, le point d'indice vaut 4,85 euros. Et la valeur du point, elle est fixée par le gouvernement. Au moment de calculer le salaire, l'administration multiplie le nombre de points d'un professeur par leur valeur en euros. Et ça, ça donne le salaire de base. Des primes peuvent ensuite s'ajouter pour tenir compte de certaines fonctions. Il y a par exemple une indemnité de suivi et d'orientation des élèves qui est perçue par tous les professeurs depuis 1992. Il y a une prime spéciale pour les professeurs des écoles qui acceptent d'être directeurs d'école. Il y a une prime pour les professeurs principaux. Ce système, globalement, vaut pour l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. Alors, cela dit, les profs ont peu de primes par rapport à d'autres métiers de la fonction publique. Enfin, les professeurs font des heures supplémentaires. Ça aussi, ça peut s'ajouter à leur rémunération. La première heure supplémentaire, d'ailleurs, quand elle est proposée par le chef d'établissement, est obligatoire. Mais les heures supplémentaires sont moins bien payées que les heures normales pour les professeurs. En milieu de carrière, par exemple, une heure supplémentaire rapporte à un prof 20% de moins qu'une heure normale, à peu près. Et puis, les heures supplémentaires qui sont faites au mois de septembre ne sont pas payées. Voilà, c'est comme ça. Enfin, un petit mot sur les contractuels. En fait, à travail égal, les contractuels ont un salaire plus faible que les professeurs titulaires, donc agrégés, certifiés, profs des écoles. Par exemple, un contractuel qui commence avec Bac plus 4, il a 367 points d'indice, alors qu'un enseignant certifié a 390 points d'indice. La doctrine d'ensemble, c'est de garder des rémunérations plus faibles pour les contractuels, parce que la préférence de l'État, c'est bien entendu d'avoir quand même des professeurs titulaires.
Ok, c'est bon, vous avez bien tout saisi. Normalement, on est bon. Vous l'aurez compris, le point central du salaire des profs, c'est donc la valeur du point d'indice. Comment évolue-t-il et pourquoi ?
Alors tout d'abord, vous devez savoir qu'avant 1983, ce point d'indice, comme tous les autres salaires, était indexé sur l'inflation. C'est-à-dire, l'inflation augmente de 3%, le point d'indice augmente de 3%. Pour plus d'infos sur l'indexation, je vous laisse écouter mon épisode de novembre dernier sur ce sujet. Stop l'autopub, retournons aux profs. Après cette date de 1983, l'indexation sur l'inflation, c'est terminé. Pour eux, on aura désormais une sous-indexation, comme pour le reste de la fonction publique. En gros, le point d'indice ne sera que faiblement revalorisé au regard de la hausse des prix. Et ce n'est pas tout, car à partir de 2008, ce point d'indice a été gelé. Donc, pas d'augmentation du tout. Exception faite pour trois années, 2016, 2017 et 2022.
Depuis l'an 2000, le gouvernement a fait le choix de sous-indexer, puis de geler la valeur du point d'indice. Et donc, depuis l'an 2000, les prix ont augmenté de 50%. Mais la valeur du point d'indice a augmenté de 14%. Très, très concrètement, ça veut dire qu'en l'an 2000, vous pouviez acheter un sandwich à 4,25€ parce que le point d'indice valait 4,25€. Mais maintenant, ce même sandwich coûte 6,30€ alors que le point d'indice, lui, ne vaut que 4,85€. Donc, vous ne pouvez plus acheter ce sandwich en 2023 avec un point d'indice. En fait, il vous vaut 1,3 point d'indice pour acheter le même sandwich.
Ainsi, si on regarde le salaire net réel des profs, celui-ci a baissé d'environ 20% entre 1981 et 2004. Ce recul s'est poursuivi depuis lors, tandis qu'il a augmenté en moyenne de 11% dans les pays de l'OCDE entre 2005 et 2019.
Donc, si l'on regarde que les salaires, on voit qu'il y a une grosse perte de pouvoir d'achat pour les professeurs de primaire et du secondaire. Mais Robin, il faut aussi prendre en compte les primes, non ?
Alors oui, tu as raison, mais on regarde ça juste après. Avant ça, je vous propose une petite comparaison au niveau des pays européens de l'OCDE des salaires des profs. Selon vous, où se situe la France ? Eh bien, on est plutôt dans le bas du tableau. Un rapport réalisé par la DEP, le service statistique de l'éducation nationale, affirme que les professeurs français en milieu de carrière, 15-20 ans d'expérience, gagnent 20% de moins que leurs collègues européens de l'OCDE.
Si on donne quelques montants en dollars, on peut comparer le salaire brut moyen des professeurs du secondaire dans quelques pays. En Allemagne, les professeurs du secondaire gagnent entre 80 et 90 000 dollars bruts par an. C'est plutôt 60 000 dollars aux États-Unis ou en Espagne, 50 000 dollars en Suède et c'est 40 000 dollars en France. Donc, en France, les professeurs du secondaire ont à peu près le même salaire qu'en Italie et en Colombie, par exemple. Ça nous place à peu près à cet endroit-là.
Donc on ne va pas se mentir, nos profs ne sont pas très bien lotis.
Bon, et alors les primes, ça change quelque chose ?
Oui, bien sûr, mais en fait pas vraiment. Depuis deux décennies, diverses primes ont été mises en place pour compenser le gel du point d'indice, dont plusieurs depuis 2021. Mais ces primes ont été concentrées sur les débuts de carrière. Tant pis pour les plus anciens. Et surtout, ce sont des primes, donc elles ne sont pas prises en compte dans le calcul des retraites.
Mais avec quelle efficacité sur le pouvoir d'achat instantané des profs ?
Eh bien, une étude très complète vient répondre à cette question. Elle est l'œuvre du collectif de Mehdi Djebari, Nos services publics. Et elle s'appelle « Monter un escalator qui descend ».
Il y a des études déjà nombreuses et des données qui existent sur la perte de valeur du travail des enseignants. En particulier, les travaux de Kevin Hédé sur la période 2000-2019, je crois, qui fournissent des données très précises et de très très bonne qualité. Cependant, c'est une vision, on va dire, par cohorte. C'est-à-dire que vous suivez l'évolution du pouvoir d'achat associé à chaque niveau d'ancienneté dans le temps. C'est-à-dire que ça vous permet de comparer, et c'est très intéressant, ça vous permet de comparer ce qu'un professeur débutant gagne en 2023 par rapport à un professeur débutant en 2000. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est compléter cette vision-là par une vision individuelle, c'est-à-dire quelle est l'évolution réelle du pouvoir d'achat d'un professeur lorsqu'on le suit tout au long de sa carrière. Parce que d'un côté, le gel du point d'indice fait perdre du pouvoir d'achat, mais de l'autre côté, le professeur, tout au long de sa carrière, son salaire augmente à mesure que son ancienneté augmente. Tous les 4 ans à peu près, les professeurs franchissent ce qu'on appelle un échelon dans leur grille salariale. Et donc, tous les 4 ans, ils touchent un bonus de points d'indice. Et donc, puisque le nombre de points d'indice augmente, le salaire augmente. Et on a voulu vérifier si, quand on prend le gel du point d'indice, les évolutions d'ancienneté et toutes les petites primes qui ont été conçues par le gouvernement ces 5 dernières années, quand on secoue tout ça, à la fin, comment se comporte le pouvoir d'achat des profs par rapport à leur évolution de carrière dans le temps.
Ils prennent donc trois profils, Sophie, Nadia et Maxime. La première, Sophie, est professeure agrégée depuis 2000. Nadia est professeure certifiée depuis septembre 2008 et se trouve à l'échelon 8. Maxime est professeure certifiée de mathématiques depuis 2016 et se trouve à l'échelon 5. Les résultats sont implacables. En 2023, les deux derniers ont un pouvoir d'achat équivalent à ce qu'ils percevaient lors de leur première année comme titulaire. C'est-à-dire que gravir les échelons, ce qui devrait leur permettre d'augmenter leur niveau de vie, ne leur sert en réalité qu'à maintenir leur pouvoir d'achat. Quant à la première, Sophie, son pouvoir d'achat a reculé par rapport à 2016, malgré qu'elle ait monté un échelon depuis cette date. Et vous voulez la meilleure ? Sur l'ensemble de sa carrière, Sophie a gagné 70 000 euros de moins que ce qu'elle aurait perçu si la valeur du point d'indice avait suivi régulièrement l'inflation. Nadia a perdu 41 000 euros sur 15 ans de carrière et Maxime, 17 000 euros depuis 2016.
Super ! D'autant qu'il ne me semble pas qu'on se la coule douce en tant que prof.
Alors ça, c'est ce que tu ressens. Et ton ressenti est bon. Les profs français travaillent d'ailleurs plus que leurs voisins. Face à leurs élèves, je dis bien seulement face à leurs élèves, les professeurs des écoles enseignent 900 heures par an contre 740 en moyenne dans les autres pays de l'Union européenne. Au collège, les enseignants passent 720 heures devant les élèves contre 659 en moyenne dans le reste de l'Europe. Et vous vous souvenez au début quand je disais que les profs ne bossaient que 18 heures par semaine ? Eh bien pas du tout. J'en ai discuté avec Géraldine Farge, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Bourgogne.
On ne le dit pas, mais on attend qu'un enseignant prépare ses cours, qu'un enseignant prépare sa classe, qu'un enseignant évalue les travaux des élèves, qu'un enseignant discute avec les parents, participe à l'équipe pédagogique, enfin aux réunions d'équipe, etc. Donc voilà, ce travail invisible, c'est un peu celui-là. Peut-être pour vous donner un exemple, il y a une thèse qui a été soutenue dans mon laboratoire il y a quelques temps, qui s'est intéressée au temps de travail invisible justement des enseignants et qui a calculé que qui a montré que les enseignants avaient en fait un temps de travail très très long sur la journée. Les enseignants commencent souvent tôt le matin et s'arrêtent souvent assez tard le soir, pas concentrés que sur les heures de présence dans l'école. Et il y a aussi beaucoup de temps qui se passe dans des espaces un peu informels, par exemple à la porte de l'école, à discuter avec des parents, ou aussi le soir dans le cadre familial ou le week-end dans le cadre familial. Ça fait un temps de travail quand on le compare à celui des autres salariés qui est assez particulier, qui se laisse pas définir. C'est presque une catégorie une catégorie socio-professionnelle à part entière.
D'ailleurs, quand on ajoute les tâches en dehors des heures de cours, la moitié des enseignants déclarent travailler au moins 43 heures par semaine, selon une enquête publiée par la DEP en octobre 2022. Alors, certes, c'est une étude déclarative, mais qui se rapproche largement de la réalité selon nos deux intervenants. On peut rappeler ici que les enseignants sont l'un des seuls corps professionnels à ne pas avoir profité de la baisse du temps de travail liée aux 35 heures. Eux, leur rythme de travail devant les élèves n'a pas bougé depuis les années 1950.
Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste.
Et puis ce n'est pas tout, car les classes des professeurs français sont aussi très chargées. L'Union européenne compte en moyenne 19 élèves par classe en élémentaire et 21 au collège. Et c'est la France qui détient le palmarès des classes les plus chargées, avec en moyenne 22 élèves par classe en élémentaire et 26 au collège.
Donc si je résume, les profs français travaillent beaucoup et en moyenne plus qu'ailleurs, avec des classes très chargées, et tout ça pour un revenu net faible et un pouvoir d'achat qui n'évolue pas dans le temps. Est-ce que les mesures promises par le gouvernement vont changer la donne sur le dernier point ?
Eh bien pas vraiment. Du moins, pas pour tous les profs. Mais DJ Barry.
On a le sentiment que le plan du gouvernement consiste en réalité à diviser le corps enseignant en plusieurs catégories. Parce que quand vous regardez les augmentations qui vont être concédées par le gouvernement, vous avez une première catégorie qui concerne en fait les jeunes profs, à peu près un tiers des effectifs, qui eux vont voir leur pouvoir d'achat augmenter effectivement cette année, parce qu'ils auront d'abord une hausse de 95 euros net, plus une hausse de leur prime d'attractivité, ce qui va leur permettre de gagner entre 100 et 140 euros de pouvoir d'achat supplémentaire. Vous avez ensuite le gros des professeurs, en réalité les professeurs moins jeunes, à partir de 7 ans d'ancienneté, 70% des professeurs, en réalité, qui auront seulement une hausse de 95 euros net, rien de plus. ce qui équivaudra pour eux à une augmentation de 2 à 4% de leur salaire. Mais comme l'inflation, alors d'abord, on est loin des 10% promis par le candidat Macron, on peut le souligner, pour ces 70% de professeurs. Et comme l'inflation va probablement être de 5,5% cette année, eh bien, en réalité, leur pouvoir d'achat va diminuer. Ils ont des primes qui leur rapportent 2 à 4%, mais ils perdent en valeur 5,5% d'inflation. Donc ça, c'est une première division entre les 30% de profs qui peuvent apparaître un peu comme les gagnants et 70% de profs qui peuvent apparaître comme les perdants.
Donc pour 70%, ce serait une limitation de perte de pouvoir d'achat, mais pas une hausse. Et puis, les salaires ne vont pas beaucoup augmenter dans le temps. Dans les graphiques fournis par l'Éducation nationale, on constate que si les débutants commencent désormais à 2076 euros net, ils n'atteignent que 2250 euros au bout de 10 ans et un peu moins de 2500 euros au bout de 20 ans. Ajouter moins de 500 euros par mois sur sa fiche de paie en 20 ans, bon, pas très encourageant.
Pas fameux donc. Mais on sait pourquoi il semble si difficile d'augmenter significativement les revenus des enseignants.
Et oui, parce que cela a un coût et les implications financières pour l'État de toute politique de revalorisation sont majeures. Pourquoi ? Eh bien parce que les enseignants forment le groupe le plus important des agents de la fonction publique d'État. C'est environ 45% des effectifs et 800 000 personnes. L'État se trouve donc face à un dilemme économique. Mehdi Djebari.
Oui, il y a plus de 800 000 professeurs. Et donc, oui, si vous voulez augmenter un petit peu le pouvoir d'achat de chacun des professeurs, ça chiffre assez rapidement. Cependant, il y a quand même des choses à préciser. D'abord, statistiquement, nous avons en France plus d'élèves par prof que dans quasiment tous les pays de l'OCDE. Alors attention, je ne parle pas de la taille des classes. Je parle du ratio statistique qu'on obtient quand on divise le nombre total d'élèves par le nombre total de professeurs. Cependant, c'est quand même une grandeur, un ordre de grandeur intéressant. Nous avons en France le nombre d'élèves, le nombre de professeurs le plus faible par rapport au nombre d'élèves. Donc, nous n'avons pas des effectifs enseignants qui auraient une taille anormale. Voilà. Nous avons même plutôt un petit effectif d'enseignants par rapport à notre démographie, si nous le comparons aux autres pays de l'OCDE. Ensuite, la question du coût, on entend souvent dire que oui, ça coûterait cher d'augmenter les profs, mais tout dépend de ce que cher veut dire. En réalité, lorsque vous êtes l'État et que vous gérez un budget, vous faites des choix politiques. Tout coûte cher. Tout coûte cher ou rien coûte cher. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de choses qui coûtent cher ou pas cher. Il y a des choix politiques qui sont faits au sein d'un budget par un gouvernement en fonction de ses préférences. Et donc, en fait, revaloriser réellement les professeurs est tout à fait possible sur le plan budgétaire. Mais pour le gouvernement, ça n'est pas un investissement jugé intéressant pour l'instant.
Alors, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, on sait qu'il y a une grande fatigue du corps enseignant. Est-ce que des études le montrent ?
Sur ce point, je laisse la parole à Géraldine Farge.
Alors, une grande fatigue, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que on a des résultats d'enquête qui permettent de voir que l'exposition à ce qu'on appelle les risques psychosociaux, est assez forte chez les enseignants, en particulier chez les enseignants du primaire. Donc, c'est une étude qui avait été réalisée, je crois, en partenariat avec la MGEN, qui a été publiée en 2016, c'est pas si loin que ça, et en tout cas, il n'y a aucune raison de penser que les choses se sont beaucoup améliorées depuis, qui montrait que les enseignants du primaire, du secondaire également, par comparaison avec d'autres cadres du public, étaient plus exposés aux risques psychosociaux. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est caractéristique du travail. Le fait d'avoir un travail qui soit à la fois très codifié, très défini, et en même temps très variable, dans un contexte ce travail libre, dans un contexte où les prescriptions s'étendent, où les attentes sont plus fortes, ce travail libre, il devient aussi plus contraignant, ou en tout cas, il est soumis à davantage de contraintes. Et il expose davantage à des tensions dans l'organisation personnelle, dans l'organisation familiale, qui explique en partie cette plus grande exposition aux risques psychosociaux. Il y a aussi un autre facteur qu'on oublie un peu de mentionner, c'est qu'on oublie souvent de mentionner, c'est l'exposition le fait que les enseignants ont un métier en contact direct avec le public d'élèves. Donc, il y a ce qu'on appelle un travail émotionnel qui est important à faire du point de vue des enseignants. Ce travail émotionnel, c'est tout simplement quand, par exemple, il se passe un événement, je sais pas, il y a une bagarre dans la classe ou dans la cour de récréation, les enseignants doivent agir de façon responsable en enseignant, doivent avoir un comportement professionnel adapté et donc gérer eux-mêmes tout ce qu'ils peuvent ressentir à ce moment-là. Ils peuvent aussi faire face à des formes de violence ou des agressions verbales, parfois physiques, de la part de leurs interlocuteurs, soit de la part des élèves, soit de la part des parents d'élèves. Donc il y a tout un niveau de tension que les enseignants doivent en bon professionnel, j'ai envie de dire, gérer. Et ça, c'est extrêmement fatigant. Et ça peut être aussi extrêmement, ça peut générer de la souffrance. Il faut des ressources, il faut des capacités particulières pour assumer ces situations-là. Et tous les enseignants ne sont pas également disposés à bien vivre, à bien faire face à ces situations.
D'ailleurs, en janvier dernier, le centre Henri Aigueperse de l'UNSA Éducation publiait une étude sur les personnels de l'hôpital et de l'école. Celle-ci pointait une dégradation de leurs conditions de travail et une quête de sens et de reconnaissance de leur mission. Et début février, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a reconnu, je cite, qu'il y a de la fatigue liée au métier de l'enseignement.
Mais alors que l'épuisement au travail est important, que propose le gouvernement ?
Eh bien, de travailler plus pour gagner plus, avec ce qu'Emmanuel Macron appelle le pacte enseignant. En gros, sur la base du volontariat, les profs pourront réaliser des missions complémentaires, jusqu'à 3, qui leur feront gagner jusqu'à 3 750 € bruts par an. Pourront-ils travailler encore plus ? Et d'ailleurs, veut-on qu'ils travaillent plus ? Pas certain. Géraldine Farge va même plus loin en parlant de pénalités pour les femmes profs.
Juste un dernier point qui me semble important d'aborder, c'est que les réformes actuelles, il faut vraiment insister là-dessus, qui vise à rémunérer davantage les enseignants sous condition de faire des tâches supplémentaires, donc des remplacements, des devoirs faits, des projets, ce que les enseignants font déjà assez souvent. Mais cette réforme-là, quand on a une vue sur la recherche existante, on ne peut pas ne pas s'inquiéter de leurs conséquences en termes d'inégalité entre les sexes. Bien évidemment, actuellement, les choses étant ce qu'elles sont, ce sont surtout encore les femmes qui ont en charge le travail domestique, le suivi éducatif parental. Ce sont aussi les femmes qui ont beaucoup bénéficié d'une certaine façon de la flexibilité du métier d'enseignant, c'est-à-dire de pouvoir travailler le soir quand les enfants sont couchés et de pouvoir par contre partir de l'établissement à 16h ou 16h30 pour pouvoir avoir des activités familiales un temps avant de pouvoir retravailler. Donc toutes ces tâches en plus qui vont être attendues des enseignants, qui exigent un temps de présence plus important dans l'établissement ou qui exigent un niveau temporel plus long, un investissement temporel plus conséquent, elles vont être vues comme un défaut d'engagement dans le métier, mais regardons concrètement ce que les enseignants, et surtout les enseignantes, font quand elles ne sont pas au travail. Et le travail enseignant, c'était aussi un de ses grands avantages, c'était de pouvoir le travailler, le faire à différents moments et de choisir son moment. Cette dimension-là, elle va devenir beaucoup plus compliquée à mettre en place avec le pacte. Et ça nous fera des travaux de recherche importants à faire dans les années à venir. Comment les inégalités hommes-femmes comment le pacte va rejouer d'une certaine façon les inégalités hommes-femmes dans l'enseignement. Et juste un point pour terminer, justement, ce statut de fonctionnaire des enseignants en France, il a été une de ses qualités en comparaison internationale, c'est d'être moins inégalitaire. C'est-à-dire, les enseignantes en France, par rapport aux enseignants, ont des carrières un peu plus égales que les enseignantes par rapport aux enseignants au Royaume-Uni, par exemple.
Bon, ok, peu de raisons de se réjouir alors. Et surtout de répondre au déficit de professeurs titulaires. On va donc vers un système avec de plus en plus de contractuels ?
Ce qui est sûr, c'est qu'on en prend le chemin, oui. Et ce n'est pas une bonne nouvelle, selon nos deux intervenants. Pas de formation, des personnes envoyées au casse-pipe pour moins d'argent qu'un titulaire, des profs qui peuvent choisir les endroits où ils veulent exercer, donc des inégalités entre territoires. Enfin bref, peu de bonnes nouvelles. Pour terminer cet épisode, je laisse la parole à Mehdi Djebari.
De manière plus générale, on C'est vrai qu'on est un petit peu inquiet. Le collectif de services publics.fr et beaucoup d'autres acteurs du monde éducatif, que sont les syndicats, que sont les personnels, que sont par exemple le rapport de Gérard Longuet au Sénat sur les difficultés de recrutement des enseignants. Ce sont les enseignants en fait qui forment les salariés de l'économie future. Ce sont les enseignants qui permettent aux jeunes de savoir d'où ils viennent, quelle est leur histoire, quelles sont les valeurs de notre société. Comment fonctionne notre démocratie, pourquoi la cohésion sociale, c'est important. Ce sont les enseignants qui permettent de faire reculer la violence en donnant des armes pour discuter, pour dialoguer, pour échanger. Donc, nous n'avons pas le sentiment que c'est un bon pari sur l'avenir de continuer à appauvrir le métier d'enseignant tel que c'est le cas depuis les 25 dernières années.
Dans ces conditions, de plus en plus d'acteurs affirment leurs inquiétudes pour les équipes enseignantes et sur le futur du système éducatif français. Car oui, aujourd'hui, ce métier n'est pas simple. Loin de là.
Merci Robin pour cet épisode qui ne donne pas franchement envie de devenir prof, même s'il y a d'excellentes raisons de faire ce métier, à commencer par la nature même du travail, toujours passionnante à mes yeux. Si vous aussi vous avez aimé cet épisode et Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain.
Splash est un podcast de nouvelles écoutes, écrit et animé par moi, Robin Lemoine, en compagnie d'Emmanuel Martin. Prise de son, montage et mixage, Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio. Réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jonin. Produit par Julien Neuville. Directrice générale adjointe, Nora Issem. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice artistique, Aurore Mailleux. Chargée de production, Mathilde Jonin, avec l'aide de Neila Akmi.